Je me propose de faire, c'est d'essayer de le faire ce soir justement en une heure. La semaine dernière, on est allé un peu plus longtemps parce que j'avais une cassette qui était un peu plus longue que 60 minutes. Et réservé à la fin une dizaine de minutes ou un peu plus, suivant les questions, pour justement que vous puissiez poser des questions. Et la semaine dernière, c'est vrai qu'on a introduit la Bible. Mais plusieurs d'entre vous m'ont demandé un peu d'expliquer comment la Bible était arrivée jusqu'à nous. Comment ça se faisait que les catholiques, ils avaient des livres qu'on n'avait pas. Et pourquoi il y avait tant de différentes traductions. Alors juste en quelques minutes, j'aimerais vous donner des éléments de réponse. C'est un sujet passionnant, et c'est un sujet très complexe, mais c'est un sujet aussi où on peut avoir des assurances, c'est pas un flou artistique. Et quand on parle des livres qui constituent la Bible, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le canon. Le canon de la Bible, ça parle pas d'artillerie lourde. Le canon, ça vient du grec. C'était le mot qui était utilisé pour désigner les roseaux, les cannes des roseaux. Et ça servait de règle, de mesure. Et donc, c'était la règle de mesure, la norme. Un peu comme on aurait le mètre qui nous permet de mesurer des choses. Il y avait un canon, c'était une baguette de roseaux avec lequel les géomètres mesuraient un terrain, etc. Et on parlait de la norme comme étant le canon, pardon, comme étant la norme. Ainsi, on parle des fois du canon de la beauté antique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des gros canons qui tirent des boulets. Non, le canon de la beauté antique, ça désigne les normes en matière de beauté à l'époque de l'Antiquité. Aujourd'hui, on retrouve le même sens en français dans une expression populaire quand on dit « cette fille, elle est canon ». Ça veut dire qu'elle répond au canon, c'est-à-dire aux normes de beauté. Ça veut dire que c'est une façon de dire qu'elle est belle. Peut-être vous pensez que c'est parce qu'elle tirait à boulets rouges. Non, c'est le canon, elle est canon. Ça veut dire qu'elle correspond au canon de la beauté. Et en matière biblique, revenons à la Bible, le canon, c'est la norme biblique, c'est-à-dire l'ensemble des livres qui vont être reconnus comme composant intégralement et de façon exhaustive la parole de Dieu. Et en fait, pour déterminer ce canon, la chose essentielle, la chose caractéristique, ça va être l'inspiration divine. C'est l'inspiration, le fait que le texte ait été inspiré à l'auteur humain par Dieu, qui va déterminer la canonicité, c'est-à-dire que si le texte fait partie de ce groupe de textes fondamentaux de la parole de Dieu. Et si le texte est inspiré, on ne peut pas le laisser en dehors du canon. Et si le texte n'est pas inspiré, on doit le laisser en dehors du canon. La canonicité, le fait qu'un texte appartient à cette parole de Dieu, c'est déterminé par Dieu. Et c'est reconnu par des hommes de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui va décider qu'un texte peut être pris arbitrairement ou non. Ça ne devrait pas être le cas. Parce que vous vous souvenez, dans 2 Pierre 1:21, Pierre expliquait « Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La référence est 2 Pierre 1:21, c'est un verset fondamental pour montrer que la Bible n'a pas été imaginée par l'homme, c'est Dieu qui par son Saint-Esprit a poussé les hommes à les faire parler de sa part. Alors vous me dites, c'est bien maintenant, pour savoir si on est dans le canon, il faut savoir si on est inspiré. Ça repousse le problème, comment est-ce qu'on sait si un texte est inspiré? Alors pour l'Ancien Testament, le texte devait avoir été écrit par un prophète. Ce qui assurait l'inspiration, c'était l'autorité prophétique d'un texte. Le prophète, on le reconnaissait comme tel parce qu'il avait annoncé des choses au nom de Dieu. Et ces choses s'étaient réalisées en partie à leur époque. On parle de l'accomplissement immédiat de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, il est souvent dit « Ainsi parle l'Éternel » ou « Oracle de l'Éternel, moi je dis que » etc. Une déclaration qui suit, ça revient plus de 3000 fois, sous une forme ou sous une autre. Donc, un texte était reconnu comme faisant partie du canon si son auteur était un prophète ou si c'était quelqu'un qui avait exercé un don prophétique, comme le roi David ou le roi Salomon. David qui avait écrit les psaumes, le roi Salomon qui avait écrit entre autres les proverbes, le Cantique des Cantiques. Et Paul disait dans Romains, on en a parlé, que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. La parole de Dieu a été confiée aux Juifs, au peuple de l'Ancien Testament. Un autre critère de reconnaissance des textes faisant vraiment partie de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était le fait que dans le Nouveau Testament, on voit souvent Jésus les citer. Son livre favori, un livre qu'il citait presque sans arrêt, c'était le livre du Deutéronome. C'était son livre de chevet, il connaissait les psaumes, bien sûr, il y avait c'était Jésus, bien sûr, mais il connaissait la parole, l'Ancien Testament, c'était quelque chose de naturel, ça devenait une seconde nature pour lui, et pour beaucoup de juifs. En ce qui concerne, donc là, pour l'Ancien Testament, ce qui comptait, c'était l'autorité prophétique. Pour ce qui concerne le Nouveau Testament, ce qui compte, c'est l'autorité apostolique. C'est-à-dire que le texte d'un livre, plutôt un livre pour être admis dans ce canon, doit avoir été écrit par un des apôtres ou par quelqu'un qui était très proche de ces apôtres. Alors on sait que Jean a beaucoup écrit, mais il était, c'était l'un des apôtres de Jésus. Paul, même s'il est arrivé plus tard sur la scène, c'était aussi l'apôtre Paul qui a écrit 13 livres sur les 27 que compte le Nouveau Testament. Mais il y a des gens comme Marc, par exemple, qui n'était pas un apôtre. Par contre, c'était un compagnon de voyage avec Pierre. C'est lui qui a repris, qui a composé l'évangile selon Marc, qui est en fait la version des événements vus par l'apôtre Pierre. Luc, qui a écrit l'évangile selon Luc et le livre des Actes, lui, c'était un compagnon de voyage. C'était donc, ils étaient avec les apôtres, ils vivaient avec les apôtres, ils ont vécu des tas d'événements. Il y avait cette autorité apostolique. Et dans Éphésiens 2:20, Paul disait que l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres en ce qui concerne toute l'écriture du Nouveau Testament et les prophètes pour tout ce qui concerne l'Ancien Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, the cornerstone en anglais. Une autre caractéristique pour les textes du Nouveau Testament, c'est qu'ils étaient lus et reconnus d'emblée dans l'Église du premier siècle, dans ce qu'on appelle l'Église primitive, qui était en fait l'Église après la mort des premiers apôtres, jusqu'à la mort des apôtres. Et là, les textes étaient reconnus, ils étaient lus publiquement pour encourager, pour exhorter les chrétiens de cette époque. Il y a un autre aspect qui fait qu'un texte est inspiré, et ça c'est plus subjectif, mais c'est lorsqu'on le lit, il peut y avoir un témoignage interne de l'esprit. Et il y a des textes, des passages de textes qui ne sont pas dans le canon. Et ça n'a aucune. C'est pas quelque chose qui nous émeut, c'est pas quelque chose qui nous interpelle profondément comme peut le faire le texte biblique. Alors c'est plus subjectif, mais dans certains cas c'est évident. Où il y a un exemple d'un livre, d'un évangile du Nouveau Testament, où l'auteur, qui aurait voulu être dans le Nouveau Testament, où l'auteur disait qu'il avait écrit ce livre pour plaire à son auditoire. On sait que c'est en contradiction avec le témoignage général où les apôtres disaient « Je ne cherche pas à plaire aux hommes, voici la vérité. » Et donc il y avait ce témoignage d'une vérité qu'on ne cherche pas à présenter, à améliorer. Alors ça, c'est les grands principes pour déterminer si un texte va être admis dans le canon ou pas. En ce qui concerne l'Ancien Testament, il y avait le scribe Esdras qui avait à peu près défini le canon de l'Ancien Testament à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. En 90 après Jésus-Christ, les rabbins se sont accordés sur des livres de l'Ancien Testament qui ne devaient pas être inclus. Vous vous souvenez qu'on en parlait beaucoup l'an dernier en étudiant les prophètes et plutôt les livres de Pierre, etc., qui avaient une doctrine, une fausse doctrine qui se répandait dans les premiers siècles, qu'on appelait le gnosticisme, les gnostiques. Et le mot gnose, ça vient du mot grec qui veut dire connaissance. Et eux, ils prônaient qu'il fallait arriver à une connaissance supérieure. Ce que font beaucoup de sectes aujourd'hui. Il faut arriver à avoir atteint de la lumière, à la connaissance. Et sous-entendu, ça va vous demander du temps, il va falloir donner beaucoup d'argent, il va falloir venir aux réunions, etc. Pour arriver à une connaissance supérieure, qui fait que là, on est en quelque sorte illuminé. Et eux, ils prêchaient aussi que, en fait, le corps et tout ce qui était matériel était vraiment loin de Dieu. On pouvait appréhender Dieu seulement avec notre esprit. Et à un point tel que les péchés qu'on commettait dans le corps, c'était pas grave, parce que si on avait toujours l'esprit qui était en contact avec Dieu, alors bien sûr ça leur permettait de vivre dans la débauche la plus complète en prétendant être spirituel, ce qui est une très mauvaise combinaison. Bien sûr, il disait que Jésus, c'était pas Jésus-Christ, c'était un homme. Il était devenu Christ pendant un temps lorsque le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et qu'avant d'être crucifié, lorsqu'il avait rendu, l'Esprit Saint était reparti, il n'était plus le Christ. Et donc c'était simplement un homme qui était... Donc il y avait beaucoup de fausses doctrines, et là les églises ont essayé de recadrer le canon pour être sûr qu'il n'y avait pas... Parce que les gens, comme aujourd'hui, les gens, les mormons, les témoins de Jéhovah, les sectes de Moon et compagnie, écrivent des livres. Ils reprennent des thèmes classiques qui peuvent intéresser les gens. Et donc, il s'agit d'être sûr qu'on a la vérité. Et les églises ont eu ce qu'on appelait des conciles, donc des grands rassemblements. Le concile de Nicée, en 324 après Jésus-Christ, et écarter des textes qui se réclamaient du gnosticisme. Il y avait ce qu'on appelle un père de l'Église. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, les pères de l'Église. C'était les premiers hommes influents de l'Église dans les premiers siècles. C'était ce qu'on appelait les évêques ou les grands pasteurs de l'époque, qui ont laissé des écrits, qui ont beaucoup cité la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, au point qu'on pourrait pratiquement reconstituer la Bible en trouvant le texte dans leurs écrits. Et un de ces pères de l'Église, c'était Jérôme, qui a traduit la Bible en latin. On avait parlé, je crois, la semaine dernière, de la traduction qui avait été faite à Alexandrie par 70 sages des Hébreux, qui vivaient donc dans un pays où on parlait le grec, mais qui connaissaient très bien l'hébreu et la culture hébraïque, qui avait traduit l'Ancien Testament en grec. Et dans ces traductions, ils avaient ajouté la traduction de livres qui n'étaient pas reconnus dans le canon. Et Jérôme, quand il a traduit la Bible en latin, il a cité les textes qu'on reconnaissait comme étant du canon, mais il a même mis en garde contre ces livres apocryphes. Donc lui qui a produit la Bible en latin que l'Église catholique a utilisée pendant des siècles, la traduction de la Bible de Jérusalem se base toujours sur la Vulgate, etc. Lui-même disait attention à ses écrits, c'est pas la même qualité d'inspiration que la Bible elle-même, que le canon. En 1448, qu'est-ce qui s'est passé? Invention de l'imprimerie à caractère métallique par un certain Johannes Gensfleisch, surnommé Johann Gutenberg, qui, 4 ans plus tard, ça a pris 2 ans pour publier les premières Bibles à 42 lignes. C'était des Bibles sur 2 colonnes avec 42 lignes. Donc en 1452, les premières 150 Bibles sont imprimées. En 1483, plutôt en 1520, Luther déclenche la réforme, le mouvement qui veut revenir à la Bible. En 1545, de 1545 à 1563, l'Église catholique réunit le Concile de Trente. Et c'est eux qui vont incorporer dans leur canon les livres apocryphes dont Jérôme leur disait « Attention, ce n'est pas des textes bibliques à 100%. » Ils peuvent donner des indications sur la culture du temps, mais ce n'est pas des textes inspirés par Dieu. En fait, l'Église catholique, par opposition à la Réforme, a incorporé ces textes. Alors, je vous les cite. Ces textes qu'on appelle des apocryphes. Apocryphes, ça veut dire cachés en grec, c'est-à-dire que ce sont des textes dont soit le sens n'est pas très clair, soit ce sont des choses un peu ésotériques. Il y a le livre de Tobie. Il y a 1 et 2 Maccabées, Judith, la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique ou la sagesse de Jésus-Sirac, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste, le livre de Baruch, la lettre de Jérémie, Esdras 1, et il y a même des additions au livre d'Esther et de Daniel. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit que près de 3800 fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il est dit « Ainsi parle l'Éternel » ou une expression équivalente. Dans ces livres apocryphes, pas une seule fois il n'est dit « Ainsi parle l'Éternel ». De même, ils avouent qu'ils ne sont pas inspirés. Mais c'est par opposition à la Réforme que l'Église catholique a cru bon d'incorporer ces textes qui, entre autres, sont des supports pour la prière pour les morts, pour le purgatoire, qui servait à ramasser de l'argent, puisqu'on disait aux gens, vos bien-aimés sont peut-être en enfer, mais plutôt ils sont au purgatoire, ce n'est pas encore décidé, et vous pouvez faire pencher la balance en faisant des dons à l'Église. Voilà, alors ça c'est un peu, vraiment un très bref raccourci de la formation du canon. C'est un sujet passionnant, encore une fois, mais qui pourrait prendre toute une étude toute l'année. Maintenant, je voulais vous dire deux mots des traductions. On a dit que le texte biblique avait d'abord été écrit en hébreu pour l'Ancien Testament, en araméen pour certaines parties de l'Ancien Testament, comme le livre du prophète Daniel, ou en grec pour le Nouveau Testament. Alors, comme la plupart des gens de notre époque ne parlent pas l'hébreu ou le grec, il faut traduire. Il faut traduire, et lorsqu'on traduit, vous avez sans doute le souvenir des thèmes ou des versions que vous faisiez à l'école ou au lycée ou en fac. On peut commencer à traduire mot à mot, ou alors on peut faire une traduction de l'idée. Et c'est bien, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. La traduction mot à mot, elle vous permet de voir quels étaient les termes utilisés dans les textes anciens, et c'est vrai que ça donne une lecture très hachée, qui n'est pas souvent très littéraire, alors que lorsqu'on traduit la pensée, on peut prendre des formules qui sont plus d'actualité et rendre de façon plus vivante la pensée de l'auteur. C'est ce qu'on appelle la traduction dynamique. On traduit la pensée au lieu de traduire les mots, et en fonction de la méthode adoptée, on a des différentes résultats de traduction. La Bible Darby, par exemple, est très proche de l'original, ou des textes anciens. On peut voir les mots qui étaient utilisés. La Colombe est encore assez proche. C'est une Bible qu'on trouve beaucoup en France, dans les assemblées de frères notamment. La Colombe est un texte aussi proche du texte original ou du texte ancien. Par contre, la Bible en français courant, on va prendre les idées et essayer de les rendre en termes que les gens comprennent dans le langage courant. Souvent, ces textes, ces traductions dynamiques sont plus faciles à lire en public. Ça coule mieux parce que c'est plus des formes verbales dont on a l'habitude. Ça, c'est un premier élément de différenciation des différentes traductions. Un autre, c'est aussi les manuscrits sur lesquels on s'appuie pour faire la traduction. Ça aussi, c'est un domaine passionnant. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'a malheureusement pas les originaux des textes. On n'a pas les lettres que Paul a écrites de sa main. Pour la raison bien simple, c'est que les supports n'étaient pas des supports qui duraient très longtemps. On a eu la bonne surprise avec les manuscrits de la mer Rouge parce qu'ils étaient conservés dans des grottes, dans un climat très sec, très aride, de retrouver des textes qui datent de 2 siècles avant Jésus-Christ et qui recoupaient parfaitement des textes dont on avait trouvé des copies de manuscrits datant de l'an 900. Mais on n'a pas ces originaux. Et si on les avait, sans doute, on en ferait une idolâtrie. La copie de 1 Pierre. Waouh, ça serait enluminé, doré, il y aurait des cartes de touristes qui viendraient. Et on n'a pas les textes originaux, mais on a retrouvé, je vous l'avais dit la semaine dernière, beaucoup d'éléments, beaucoup de documents, ou de portions de documents, qui font qu'on est à même de reconstituer l'original avec une fiabilité de 98%, 99%. Et quand j'étais en école biblique, on se livrait à des études de ce genre. On nous donnait le professeur nous donnait un texte qui avait été copié, et en utilisant des principes très simples, on était amené à reconstituer l'original. Et alors, certains de ces principes, juste rapidement, c'est que lorsque quelqu'un copie un texte, il va en général simplifier le texte. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il va avoir tendance à dire « j'y comprends rien », je vais dire qu'il va réduire la complexité. Lorsque dans un texte, vous avez deux fois les mêmes mots qui se répètent, il arrive souvent que lorsqu'on copie, au lieu de revenir aux premières occurrences de ces termes, on va à la deuxième et on va avoir tout un morceau qui va manquer. Et en recoupant avec différentes copies, il y a une science qui permet de retrouver avec une fiabilité déconcertante l'original. Alors ça, c'est basé à partir des documents, mais il y a dans les textes qu'on a retrouvés plusieurs familles de documents. Il y a ce qu'on appelle les documents occidentaux, les documents d'Alexandrie, qui sont plus anciens, et la Vulgate, et puis ce qui a donné naissance à la Bible du roi Jacques, le King James, ça fait drôle de le dire en français, c'était ce qu'on appelait le Textus Receptus, un texte grec et hébreu qui avait été déclaré valable par Érasme. Et donc à partir de ce texte, on avait des traductions. Et puis quand on a fait des découvertes ultérieurement, on a trouvé des manuscrits plus anciens. Alors on a fait une autre langue. On a constitué des textes originaux un peu différents. Et suivant les textes sur lesquels on se base pour faire la traduction, on va avoir quelques variations. Darby, par exemple, et la seconde se réfèrent à des ensembles de textes différents. Mais ça, faut pas que ça vous affole, parce que même avec ces différences, le sens global est conservé à 98,5%. C'est sur des points de détail qu'on peut trouver des petites variations. Et donc, à partir de ça, il y a aussi la nécessité régulièrement de réviser la langue. On parle plus comme on parlait au Moyen Âge. On disait pas l'imparfait, c'était tu as la loi, il a loi, au lieu de il allait. La première seconde parlait, au lieu de dire je ne vais pas, il disait je ne vais point. Donc il y a une modernisation du texte qui doit suivre la langue, l'évolution de la langue vivante et qui bouge donc. Et donc ça explique qu'il y ait beaucoup de traductions différentes. Alors il y a pas mal d'ouvrages qui parlent de ces sujets. Il y en a un qui est très bien, que vous pouvez trouver à la librairie évangélique, 25 boulevard, j'ai pas de prime, hein, mais ça s'appelle « L'histoire merveilleuse de la transmission de la Bible, de sa rédaction à nos jours ». Et ça donne des éléments, ça approfondit un peu ce que je vous ai dit, sans tomber dans l'érudition qui peut rapidement être le cas dans ces ouvrages. Et c'est un petit ouvrage qui doit coûter 3 ou 4 euros, donc c'est vraiment accessible. L'histoire merveilleuse de la transmission de la Bible. Il y a des tas de livres, une Bible et tant de versions, qui répondent à ces questions que les personnes qui ne connaissent pas ces choses ne manquent pas de se poser lorsqu'ils abordent l'étude de la Bible. Voilà. On va s'arrêter là. C'est pas grand-chose, mais ça vous donne peut-être un peu un aperçu. Je vais prendre ma Bible. On aimerait rapidement parler des trois premiers chapitres de la Genèse. Alors je reconnais que c'est la vitesse grand V, parce que vous pourrez passer là aussi des mois à étudier la Genèse. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Il y en avait 22 dans la Bible hébraïque, parce qu'ils regroupaient certains passages, comme les 1 et 2 Chroniques, 1 et 2 Samuel faisaient qu'un livre. La Genèse s'appelle comme ça parce que c'est le livre des commencements. Et la Bible commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». On va voir les chapitres 1 à 3 en parlant essentiellement de la création et de la chute de l'homme. Il y a deux façons de voir le monde, essentiellement. On peut multiplier, mais en fait, tout peut se résumer à deux propositions. Soit le monde est un accident cosmique, soit le monde et l'homme sont la réalisation des plans d'un architecte. Soit il y a un plan, soit il n'y en a pas. Ça me rappelle, il y a quelques années, quelques-uns l'ont connu peut-être, j'avais mon petit-neveu, le fils de Steve et Suzy, Steve c'est le frère de Nancy, qui sont missionnaires à Djibouti. À l'époque, il avait 4 ans. Et il avait entendu parler de ces deux visions du monde, sans doute des discussions de ses parents avec des amis ou des contacts. Soit l'homme était le résultat d'un accident, soit l'homme était le résultat d'un plan. Et un jour, il se trouvait dans la rue à Nice, il a vu deux voitures se rentrer dedans, deux voitures qui étaient embouties, des gens qui commençaient à crier l'un après l'autre. Et là, il s'est tourné vers son papa, il a dit « Papa, est-ce que quelqu'un vient de naître ?» Puis si on est le fruit d'un accident, et lui, l'accident cosmique, il pensait qu'à chaque fois qu'il y avait deux voitures qui se rentraient dedans, il y avait quelqu'un qui naissait. Il y a 4 questions fondamentales. Qui, d'où, pourquoi, où? C'est pas le nom d'un fromage de chèvre. Qui, d'où, pourquoi, d'où? Pourquoi, où? C'est qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où est-ce que je vais aller après ma mort? Et suivant votre façon de voir le monde, suivant vous pensez vous résulter d'un accident de deux voitures cosmiques, ou qu'il y a un créateur qui vous a façonné, vous allez avoir des réponses totalement différentes. La Bible va répondre directement à ces questions. Elle anticipe toutes les fausses doctrines, toutes les fausses philosophies qui, aujourd'hui encore, trompent les gens. L'athéisme, Dieu n'existe pas. Ici, au commencement, Dieu. Le panthéisme, qui est très répandu dans l'Orient. Tout est Dieu, Dieu est partout, Dieu est dans le rocher, Dieu est dans la grenouille, Dieu est dans le micro. Non, Dieu est distinct de sa création, nous explique la Bible. Le polythéisme, oh, il y a un Dieu du sound system, il y a un Dieu du soleil, il y a plusieurs dieux, il y a des dieux pour tout. Au Tibet, il y a près de 400 000 dieux. Il y a de quoi se faire du souci, parce qu'il faut les apaiser tous, il faut leur plaire à tous. Ça nous paraît stupide, mais les gens vivent vraiment dans l'esclavage à ce polythéisme. La Genèse nous dit qu'il y a un seul Dieu. On va voir que c'est un seul Dieu en trois personnes, mais il est unique. La philosophie du matérialisme qui dit qu'en fait on vit dans un matériel, qu'il n'y a pas d'esprit. La Bible nous apprend que la matière a eu un commencement. La science, il n'y a pas très longtemps, est arrivée au même résultat en parlant du Big Bang, on y reviendra. L'humanisme, ça c'est la religion quasi officielle du monde occidental. En fait, la Bible, la Genèse nous apprend que c'est Dieu et pas l'homme qui est la réalité ultime. Finalement, dans le domaine scientifique, l'évolution, qui est la base de la psychologie, de la biologie d'abord, de la psychologie, de la science, la Bible dit non, nous avons été créés par Dieu. Cette évolution, elle présuppose le fait que tout est constant, les mesures que l'on fait sur la radiation du carbone 14, la vitesse de la lumière, ces choses ne changent pas. C'est l'uniformité. Alors que la Bible nous apprend que Dieu choisit d'intervenir quand il le désire dans sa création. Il est souverain. Et Dieu a même choisi d'entrer dans sa création pour accomplir une mission pour nous. Dieu est rentré dans sa création. Il a atterri à Jérusalem dans le peuple juif. Toutes les doctrines de la Bible trouvent leurs racines dans la Genèse, aussi bien la souveraineté de Dieu que le salut, la justification par la foi, l'enlèvement de l'Église même, la mort et la résurrection, la prêtrise, selon Aaron, selon Melchizedek, l'Antéchrist, et on pourrait multiplier les exemples. Si vous acceptez le premier verset de la Bible, vous n'aurez aucun mal à comprendre tout le reste. Au commencement, Dieu créa cette fréquence, le nombre 7, qui est le nombre, on l'a vu dans la Bible en étudiant l'Apocalypse, de ce qui est complet, de ce qui est terminé. 6, c'est le nombre de l'homme. 8, c'est le nombre du renouvellement. Après 7, on recommence. Jésus, son nom en grec, a comme signature, c'est-à-dire lorsque chaque lettre correspond à un nombre, son chiffre, c'est 8. Jésus, c'est le renouvellement, c'est le recommencement. Jésus est toujours là pour nous reprendre, pour nous rappeler qu'on peut recommencer, on peut repartir à zéro. Il y avait ce chant évangélique très populaire pendant un moment, on peut repartir à zéro. Le mot Elohim, le mot Dieu, c'est le mot Elohim. Et sans être des experts en hébreu, vous savez peut-être que les pluriels se forment en mettant le mot, le suffixe im. Un ange, c'est un chérub. Pluriel, c'est chérubim, qui a donné en français chérubin. Et donc là, dès le départ, Dieu, c'est un être pluriel. Alors certains disent, oui, mais c'est un terme de respect, comme le roi va parler de lui à la troisième personne, ou dire, nous avons décidé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il est utilisé grammaticalement comme si c'était un singulier. C'est de la mauvaise grammaire, mais de la bonne théologie. C'est Dieu qui est déjà présenté ici comme la Trinité, comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Bible, par la Genèse, répond à beaucoup de questions. Quand j'étais jeune, on disait que la Terre avait 2 millions d'années. Maintenant, on parle de 50 millions d'années. Et je vous garantis, ça fait pas si longtemps que je suis allé à l'école. Ça, c'est une blague de Pasteur Chuck, mais c'est intéressant parce que plus ça va, plus il faut rajouter du temps pour donner un peu de plausibilité pour que les statistiques aient un peu le temps, des probabilités infinitésimales et presque une chance de se réaliser. On parle de l'expansion de l'univers. J'ai parlé du Big Bang. Ce résidu, le Big Bang, fin de Chichourne. Ce résidu qu'on a trouvé dans les émissions radioélectriques venant de l'univers, par deux chercheurs des laboratoires Bell, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi sur leurs mesures il y avait toujours un bruit de fond. Ils ont même été regardés sur le toit de l'observatoire pour voir s'il n'y avait pas des pigeons qui avaient fait leur nid sur les récepteurs paraboliques qui captaient les signaux électromagnétiques venant de l'univers. Finalement, ils sont résolus à dire qu'en fait, c'était un bruit de fond qui venait d'un événement unique dans l'histoire de l'univers, un moment où il n'y avait rien, et puis ça a tout explosé. Il n'y avait rien et ça a explosé. Voilà, ça c'est la théorie du Big Bang. Le Big Bang, c'est en fait un ensemble de théories qui ont du mal à s'harmoniser, et aujourd'hui encore, il n'y a pas de réponse précise avec la théorie du Big Bang. Est-ce que l'univers a été vraiment créé en 6 jours, ou est-ce qu'il a été créé sur des millénaires, des millions d'années qu'on appellerait des ères géologiques? C'est le savant Hubble, dont on a nommé l'observatoire en orbite après son nom, qui a mesuré la vitesse d'expansion de l'univers basée sur un décalage du spectre lumineux vers le rouge. Alors ça, c'est un peu nébuleux peut-être pour ceux qui n'ont pas fait de physique, mais en physique, on sait que quand on va aux 24 heures du Mans, les voitures font pas... Elles font... Et pourtant le bruit est constant, mais quand les ondes acoustiques approchent, elles sont comprimées, donc la fréquence va augmenter, et lorsqu'elles s'éloignent, la fréquence va se diminuer. Donc il va y avoir une espèce d'augmentation du champ, et en lumière, ça se traduit par un décalage vers le rouge. Et donc avec cette méthode, on peut calculer l'expansion de l'univers. Et alors là, c'est un peu du science et vie, je l'admets, mais lorsqu'il est dit que l'univers a été créé en 6 jours, vous savez qu'avec Einstein, le temps, ça dépend de l'observateur. Et avec ce facteur d'expansion calculé par Hubble, l'âge de la Terre pourrait correspondre, vu d'une distance lointaine, à ces 6 jours. Alors c'est pas la preuve que ça existe. Mais c'est des remarques qui peuvent nous faire réfléchir qu'en fait la Bible, en fait, si on la prend au sérieux et qu'on la prend comme point de départ, on peut faire des réflexions étonnantes et dignes des plus grands chercheurs. C'est pas de la stupidité des fables, c'est la parole de Dieu, encore une fois. Quand il est dit que Dieu créa le ciel et la terre, le mot qui est utilisé, c'est pour créer à partir de rien. L'homme s'est créé. On verra que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a en lui de créer, de faire quelque chose, mais on ne sait pas faire à partir de rien. Lavoisier avait dit « rien ne se perd, rien ne se crée ». On sait manipuler, on sait transformer, mais on ne sait pas créer à partir de rien. Le verset 2 dit que la terre était informe et vide. En hébreu, il est dit que la terre était « tohu bohu ». Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le mot tohu bohu, en français, je ne sais pas si vous connaissez le terme, c'est peut-être un terme dépassé. J'essaierai auprès de Sébastien, il me dira si c'est un terme qu'on n'emploie plus de notre temps. Tohu, ça veut dire désolé, vide, désolé. Et bohu, c'est en ruine, vide. En français, le mot tohu bohu, ça voulait dire un grand désordre, bruyant. Mais ici, ça parle d'une terre qui était dévastée, qui était ruinée, désolée. Et il y a un passage dans Ésaïe 45, 18, ça c'est un verset que vous pouvez noter. Il est dit Dieu a créé les cieux, il a façonné la terre, il l'a formée. Il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Ésaïe 45, 18. Et à cause de ce verset, il y a ce qu'on appelle la théorie du décalage, ou en anglais le gap theory, qui veut dire que entre le verset 1 et le verset 2, il y a un grand intervalle de temps. Alors ça encore, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, c'est simplement une position qui permet d'expliquer certaines choses. Et cette théorie dit qu'en fait, peut-être que Dieu a d'abord créé la terre, l'univers, et que là, les anges, menés par Satan, se sont révoltés contre Dieu. Parce que dans la Bible, il n'est pas dit quand est-ce que Satan s'est vraiment révolté contre Dieu. Il est question du roi de Tyr dans Ésaïe 14, dans Ézéchiel 28. Mais à ce moment-là, Dieu aurait détruit, aurait renversé, aurait défriché la terre avant de ne la reformer. Et là, c'est là que l'on voit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et à partir du verset 3, on revoit une création de la terre qui pourrait être, selon cette théorie, peut-être une recréation. Alors, c'est pas vital pour votre foi, mais c'est simplement pour que vous soyez au courant. Ce qui est formidable, c'est que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, prêt à bâtir, prêt à construire, prêt à sortir, à faire venir la lumière. Et cet Esprit Saint, il ne change pas non plus. Il est le même aujourd'hui et il veut aussi faire une belle chose de notre vie de pécheur désolé, perdu dans notre chair, tout ça. L'Esprit Saint est à l'œuvre. L'Esprit Saint, il est auprès de chacun de ceux qui ne le connaissent pas encore pour essayer de les amener à Christ. Et lorsque l'on vient à Christ, l'Esprit Saint, à ce moment-là, vient en nous. Et puis, il peut même venir sur nous pour nous préparer au ministère, au service, à son service. Verset 3, Dieu crée la lumière. La lumière, c'est une des choses les plus difficiles à saisir, à comprendre en physique. La seule façon de chasser les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. Jean disait que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Dieu crée la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres une nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Encore une fois, est-ce que c'est un jour de 24 heures ou un jour d'une durée indéterminée? Moi je penche personnellement en un jour de 24 heures comme ici-bas, parce que lorsque dans l'Exode Moïse rapportait la création du sabbat, il nous expliquait que comme Dieu s'était reposé le septième jour, l'homme devait lui aussi sanctifier le jour du sabbat, le mettre à part pour sanctifier Dieu et aussi pour se reposer. Des questions aussi qu'on peut soulever, si les périodes, si les journées étaient des périodes géologiques de milliers ou de millions d'années, on voit que les plantes sont créées la première journée, et puis on se demanderait comment est-ce que le soleil et la lune apparaissent aux quatrième journée. S'ils sont des aires géologiques, comment est-ce que les plantes vont survivre pendant des millions d'années sans soleil? Alors ça, c'est juste des réflexions pour montrer que il pourrait vraiment s'agir de jours, de 24 heures. Le deuxième jour, versets 6 à 8, on voit Dieu qui sépare les eaux pour séparer les eaux d'entre les eaux. Et là, verset 7, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue d'en haut le ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que ces eaux qui étaient au-dessus? Il y a une théorie ou une proposition de certains commentateurs que peut-être à l'époque, il y avait une espèce de sphère qui entourait la planète, une sphère remplie d'eau, et cette sphère aurait eu comme propriété d'une part d'assurer un climat uniforme sur la Terre, alors que maintenant on a l'équateur, on a les pôles qui sont beaucoup plus froids. Et vous savez, vous avez peut-être entendu parler de ces mammouths qu'on a retrouvés, c'est pas l'éducation nationale, mais les mammouths qu'on a retrouvés dans les glaces du pôle Nord, ou en Sibérie septentrionale, qui avaient dans leur estomac encore des restes de plantes tropicales. Des feuilles de palmier, des choses qui ne poussent normalement que dans des climats très chauds. Si rien ne change, on ne comprend pas comment il pouvait y avoir des palmiers au pôle Nord. Par contre, s'il y avait cette sphère qui entourait la Terre, on aurait pu avoir cette, cet effet de serre, de protéger et d'avoir un climat uniforme. Il est aussi intéressant de remarquer que si on fait confiance au texte biblique, avant que ne se produise le déluge aurait été donc la rupture de ces eaux qui seraient tombées sur la terre, qui auraient fait monter le niveau des eaux de la mer. Il n'y avait pas de pluie avant le déluge. Il y avait peut-être une condensation qui expliquerait qu'il y ait des rivières dès la Genèse. Mais cette sphère d'eau aurait pu protéger l'humanité d'alors des rayonnements cosmiques. Aujourd'hui, même sous une salle comme ça, on est bombardé, nous disent les scientifiques, de particules atomiques et subatomiques. Il y a ce qu'on appelle des neutrinos qui passent partout, qui nous bombardent, contre lesquels on ne peut pas se protéger, qui auraient pu être retenus en partie ou complètement par cette couche d'eau qui aurait recouvert le ciel et qui expliquerait que les hommes aient pu vivre l'âge de Noé, 800 à 900 ans. D'autant qu'après le déluge, il y a une chute brutale. La longévité chute brutalement, pour revenir dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, 80, 100, 120, mais on n'a plus ces personnes qui vivent 900 ans, 800 ans. Et à ce jour, le vieillissement est mal compris par les scientifiques. Parce que pourquoi est-ce que l'homme ne conduit pas à se reproduire? Alors là, justement, on pense que ce sont ces bombardements cosmiques qui attaquent le message ADN de chaque cellule, qui fait que les cellules ont plus de mal à se reproduire. Il y a aussi une durée de reproduction. Au bout d'un temps, les cellules ne se reproduisent plus. Mais c'est une façon de voir ces eaux du dessus. Sans ça, on a du mal à l'expliquer. Versets 9 à 12, il y a un assèchement des eaux. La partie sèche est appelée la terre. La partie liquide est appelée les mers. Dieu vit que cela était bon. La terre se couvre de verdure, verset 11, qui porte des semences d'arbres de fruitiers donnant sur la terre des fruits selon leur espèce et en ayant en eux leurs semences. Et on voit plus loin de la verdure, de l'herbe, qui donne du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Ça, c'est le troisième jour. Et il y a ce mot qui revient, selon l'espèce, selon leur espèce. Et ça contredit directement la théorie de l'évolution qui dit que, à la limite, le chien peut conduire au chat, le singe, le gorille peuvent conduire à l'homme. En fait, même Darwin reconnaissait qu'il y avait un sérieux problème dans sa théorie de l'évolution, c'était l'absence de forme en transition. S'il y a un changement graduel, on devrait retrouver des milliers, des millions de formes intermédiaires. Or, on ne retrouve aucune. Il y en a quelques-unes qui ont été soi-disant trouvées, on a remarqué après que c'était des supercheries, mais on n'a pas de forme en transition. Lorsque les poissons meurent au fond des rivières, on ne les voit pas qui se fossilisent en poissons, comme à l'époque du déluge. Et puis il y a des problèmes dans la théorie de l'évolution a eu beaucoup de succès parce qu'avec elle on peut se passer de Dieu. Il n'y a plus de créateur. Ah, ça y est, on peut faire n'importe quoi. Dans cette théorie, l'instrument du changement, c'est la mort. La Bible nous apprend que la mort, c'est le salaire du péché. Ça colle pas. Il y a des questions de bon sens. À l'époque, l'évolution nous dit qu'il y avait des monstres qui vivaient sur la Terre. Il suffit de voir Jurassic Park et compagnie. Puis on nous dit qu'à travers des marées, il y aurait bombardé par des radiations, la foudre, l'éclair aurait donné naissance à des cellules à base de ce qu'on appelle la chimie organique, et que cette chimie aurait permis que des cellules se constituent et puis Et le résultat, c'est que le premier homme serait été sans doute une petite cellule, puis ça serait devenu un petit bébé. Et on voit aujourd'hui le soin que demande un bébé. On imagine un petit bébé qui se soulève dans Jurassic Park tout seul et qui dit « ça y est, je suis l'homme, j'arrive, laissez-moi tranquille ». Ça tient pas la route. Alors, c'est vrai que l'évolution essaye de dire que ça s'est produit sur des milliers, des millions d'années. Mais là encore, les statistiques sont impardonnables avec la théorie de l'évolution. Une molécule d'ADN, c'est, pour votre biologie, vous souvenez que c'est une double hélice avec des petits bâtonnets composés de sucre et de phosphate. Et il faut que, pour que l'ADN soit viable, il faut que ces bâtonnets soient bien positionnés. S'ils ne sont pas dans la bonne position, si on les inverse, la molécule ne va pas être viable. Si on considère un tout petite portion d'une cellule d'ADN, d'une fibre d'une hélice d'ADN, juste sur un millimètre, je ne sais plus, je crois qu'il y a près de 1000 liaisons qui doivent être bien placées. Et c'est un peu comme si quelqu'un jouait avec des pièces de monnaie et devait lancer 1000 fois la pièce et faire 1000 fois pile. Pour faire ça, ça reviendrait, les chances pour arriver à ça, si c'est purement du hasard, c'est 1 sur 10 à la puissance 300. Pour les mathématiciens, c'est 1 sur 2 à la puissance 1000. Le logarithme de 2 à la puissance 1000, c'est 1000 fois le logarithme de 2, 0, 30, 103, ça fait 301, c'est 10 à la puissance 301. Et ça, si on s'amusait à jeter des pièces pendant des milliards de fois par seconde, pendant 3 000 milliards d'années, on n'arriverait pas à ce nombre. Et donc, la science, lorsqu'elle est, elle n'est pas partie, elle ne fait pas de parti pris, elle milite contre la théorie de l'évolution. Ça, c'est donc pour parler du chapitre 1, il nous reste 8 minutes pour terminer nos chapitres 2 et 3. On va parler plus vite. Verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. On voit qu'il le met dans le jardin d'Éden et il fait une seule restriction à l'homme, il lui dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis Dieu réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il décide de lui faire un aide qui sera son vis-à-vis, pas son inférieur, son vis-à-vis. Il forme du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il donne à l'homme la capacité, l'opportunité de nommer ces êtres vivants. C'est l'homme, c'est Adam qui fait ce travail de grande créativité que de donner un nom à tous ces animaux, tous ces bêtes. Et puis Adam, vous le savez, trouve qu'il est bien seul. Et là, l'Éternel Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et qu'il amena vers l'homme. Alors là, la côte, là, certains disent oui, mais les femmes ont le même nombre de côte que les hommes, donc ça peut pas être vrai. On n'est pas sûr d'ailleurs que le terme utilisé soit pas ne signifie pas autre chose. Ça pourrait être peut-être une transfusion de sang, mais allons avec l'idée de la côte qu'il avait prise à l'homme. Ce qui est formidable, c'est la réaction de l'homme. C'est l'os de mes os, de mes os, la chair de ma chair, car c'est elle qu'on appellera femme, car elle est apprise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Et puis là, il y a le serpent qui était toujours là, qui rôdait et qui a commencé à mettre en question la parole de Dieu. Et il suscite d'abord le doute. Verset 1 du chapitre 3. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça ce que la Bible dit? La parole de Dieu? Et la femme répond, non, il a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui est au milieu du jardin, sinon vous mourrez. Et là, le serpent, Satan, on sait par la Bible que ce serpent, c'est Satan, par l'Apocalypse, hein, on avait vu cette désignation, serpent, le diable, Satan, le serpent ancien, il contredit directement, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas du tout. Et puis là, il donne une fausse raison, il ment, il dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Et là, il a insinué le doute, il a contredit la parole de Dieu. Maintenant, la femme, qui voit que l'arbre est bon, qu'il est agréable à la vue, propre à donner du discernement, ça c'est un mensonge, elle prend ce fruit, elle en mange, elle en donne à Adam, qui doit assumer toute entière responsabilité, parce qu'ils étaient un, et il en mange aussi. On sait que ça c'est l'homme qui désobéit à Dieu, c'est l'entrée du péché dans la race humaine. On va le voir, dans Romains, à partir du chapitre 5, on va parler de l'ancien Adam et du nouvel Adam. Et là, il est dit au verset 7 qu'ils prennent conscience du fait qu'ils sont nus. Et là, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors on me dit que les feuilles de figuier, ça pique. Et un peu plus loin, on voit que Dieu va leur faire des vêtements à partir d'animaux, de la fourrure des animaux. Et là, quelque part, déjà, Dieu montre à l'homme que le péché mérite la mort. Le péché de l'homme va conduire à la mort de ces animaux pour les vêtir. Lorsque l'homme et la femme se pêchent, tout de suite il y a la rupture de la communion avec Dieu. On n'a pas vu, mais il était dit que l'homme et Dieu marchaient dans le jardin, dans la fraîcheur du soir. Dès qu'il y a le péché, il y a cette séparation, cette rupture de communion, et c'est pour ça qu'on est si mal lorsqu'on pêche. Parce que on n'a plus cette paix, on n'a plus cette sérénité, on n'a plus ce rapport sans ombre avec Dieu. La femme, alors plutôt l'homme dit c'est pas moi qui ai mangé l'arbre, c'est la femme. La femme dit c'est pas moi, c'est le serpent. On commence déjà à se passer le blâme. Et là, on l'a déjà dit, verset 15, Dieu annonce déjà la promesse d'un rétablissement des choses. Il va mettre l'inimitié entre la femme et Satan, entre la descendance de la femme et la descendance de Satan. La descendance de la femme, c'est tous les hommes, mais c'est surtout dans ce sens-là le Messie qui allait venir par l'homme, par la femme, par une descendante d'Ève. Et la descendance de Satan, c'est tous les gens qui le suivent. Et là, il est dit qu'elle t'écrasera la tête, tu lui écraseras le talon. Le diable a écrasé le talon de la descendance. Il a écrasé le talon de Jésus lorsque Jésus a dû mourir sur la croix. Mais en mourant sur la croix et en étant ressuscité, Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu le diable à la croix. Et puis les conséquences du péché. Il y a l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, il te produira des chardons, des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Le fait aussi que la femme accoucherait dans la douleur. Et puis cette promesse, tu travailleras et tu retourneras à la poussière parce que tu as été fait de la poussière. Et puis ce dernier épisode où l'homme est chassé du jardin d'Éden, que l'on situe à peu près dans l'Irak moderne. Sachant que depuis il y a eu des bouleversements cataclysmiques avec le déluge, donc on ne peut pas retrouver l'endroit tel qu'il était. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et il y a eu des chérubins, donc des anges au pluriel, avec une flamme qui gardait l'entrée de ce jardin pour garder le chemin d'arbre de la vie. En parlant de l'Apocalypse, on avait dit que c'était une façon pour s'assurer que l'homme ne resterait pas toujours éternellement dans une condition de pécheur. L'arbre de la vie, ça donnait la vie éternelle, et si l'homme avait touché cet arbre de la vie en état de péché, certains pensent que ça voulait dire que l'homme aurait été dans le péché éternellement. Et la Genèse, les livres des commencements, on commence donc à voir le péché, on commence à voir la solution au péché que Dieu a prévu. Et on a vu en étudiant l'Apocalypse, avant de commencer cette série, on a vu qu'en fait, on retrouvait ces mêmes arbres, l'arbre de vie, mais maintenant l'homme était sauvé, il pouvait avoir la vie éternelle avec Dieu. Voilà, ça c'est en gros, un survol très rapide. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques peut-être, parce que on a passé des mois à étudier la Genèse. Là, c'est vrai que on file. Je regarde s'il n'y a pas des choses que je voulais vous dire. Dieu nous laisse la capacité de choix. Jamais il ne nous force il nous impose un choix. L'amour envers Dieu doit toujours être une réponse libre de notre part. Oui. La lignée qui est descendue. Alors, voilà. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre Adam et Ève et le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que ces gens ont été perdus? Alors là, on avait parlé en étudiant Abraham, ça c'est le dimanche, pardon, que les gens ont toujours été sauvés par la croix, par le sacrifice de Christ. Et les gens qui étaient sauvés avant que Christ ne soit crucifié, il est dit dans certains passages qu'ils avaient cru à la promesse sans l'avoir vue. Donc ce personnage qui était promis dans la Bible, on verra au fur et à mesure qu'on avance dans la Genèse, notamment la Genèse 5, qui a des prophéties sur la venue de Christ et sur le prophète Ésaïe notamment, que les gens croyez à la promesse de Dieu qui disait qu'un jour allait venir ce rédempteur, ce Messie, qui allait être un intermédiaire et qui allait souffrir et qui allait faire que l'homme serait accepté par Dieu. Donc nous, même en 2003, la croix, on la regarde au passé. Eux, ces hommes qui n'avaient pas encore la croix, ils la regardaient dans le futur. Mais c'est toujours par la foi en Christ et ce qu'il a fait sur la croix qu'on peut être sauvé. D'accord ? Ça, c'est une réponse rapide. D'autres questions ?